Voilà, bonsoir à tous. Nous avons reçu pas mal de questions, finalement. Merci. On a essayé de les regrouper en plusieurs thèmes, comme vous avez sur votre feuille de route. Donc, on va parler chacun alternativement autour d'un thème. Donc, le premier sera le pardon, puis les groupes, la différenciation des relations, la transmission dans les familles, la justesse des relations, puis un troisième chapitre qui sera sur la sexualité, les lois religieuses, les conflits mythiques par rapport à la sexualité, et un quatrième chapitre avec certaines questions théologiques et aussi tout ce qui concerne les conflits de croyances. Voilà, on va commencer avec le pardon. Il y a très peu d'auteurs en psychologie qui abordent cette question du pardon, alors que la souffrance psychique est pourtant très souvent liée au sentiment d'avoir été blessé. Mais le mot pardon est très peu utilisé. Il y a deux auteurs qu'on a cités qui l'abordent, c'est Nagy et Michel Delage dans son livre sur la résilience. En psychothérapie, on peut dire que le travail psychique du pardon est toujours présent, et particulièrement dans le travail du deuil et dans le travail des traumatismes, même si on ne le nomme pas comme ça. Alors, les blessures provoquent toujours de la colère, qui est une émotion normale, mais qui doit trouver un chemin pour s'exprimer, pour être entendue et pour se transformer, sinon elle risque de dégénérer en haine ou en désespoir. Hein ? Derrière la colère, il y a toujours une immense tristesse aussi, un travail de deuil à faire. Si la colère n'est pas entendue, eh bien la tristesse ne le sera pas non plus. Et donc, c'est dans une relation que toutes ces émotions vont pouvoir s'apaiser. Jean Monbourquette, un prêtre psychologue canadien, a beaucoup travaillé cette question du pardon dans son livre « Comment pardonner ?» qui est devenu un best-seller. Il a aussi écrit un livre « Comment demander pardon sans s'humilier ?» qui est intéressant aussi. Et donc, c'est un outil précieux, ce livre, pour ceux qui se sentent bloqués sur le chemin du pardon. J'ai plusieurs patients qui ont travaillé à partir de ce livre ou qui ont fait des retraites à partir de ce livre aussi. Et dans son introduction, l'auteur témoigne du fait qu'il a lui-même vécu ce blocage, cette impression de tourner en rond et de ne pas arriver à pardonner. Dans un premier chapitre, il va nous parler de la pathologie qu'engendre le refus de pardonner, selon quatre modalités différentes. Donc, si on refuse de pardonner, on risque de perpétuer en soi et dans nos relations aux autres le mal qu'on a subi, de le répéter. Alors, par plusieurs mécanismes psychologiques, on a parlé du phénomène d'identification à l'agresseur, hein, quand on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette souffrance de victime et à faire ce travail psychique de pardon, on risque de répéter le mal qu'on a subi. Aussi parfois parce qu'on veut préserver l'amour qu'on a pour l'offenseur, notamment dans des cas d'inceste. On a parlé du mécanisme d'ardoise pivotante aussi, selon Nagy, où le mal qu'on a subi, on peut le faire payer à quelqu'un d'autre. Et aussi des répétitions transgénérationnelles du mal subi. Un exemple assez fréquent qu'on entend en consultation dans des thérapies familiales, c'est « Oui, mais mes enfants se plaignent du fait que je suis colérique ou violent, mais s'ils savaient ce que moi j'ai vécu enfant, je suis quand même beaucoup moins violent que mon père. » Hein, et donc, mais les enfants, ça ne les arrange pas de savoir que leur grand-père était plus violent que leur père, ils souffrent de la violence de leur père. Hein. Mais donc le père lui-même répète ce qu'il a subi en ayant l'impression de faire beaucoup mieux, hein, que ce qu'il a vécu. Mais donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du mal subi qui n'a pas été jusqu'au bout, et donc un travail de pardon qui n'a pas été jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est de vivre dans le ressentiment. Le mal peut être refoulé et provoquer aussi des maladies psychosomatiques. Le troisième risque, c'est de rester accroché au passé. Et donc ça bloque la possibilité d'ouvrir un avenir et de vivre le présent. On ressasse ce qui s'est passé. Le quatrième risque, c'est le désir de se venger. Donc le désir de se venger, ben, il est humain, il est quasi instinctif, c'est une réalité à laquelle on est tous confrontés si on a été agressé gravement. C'est un instinct de justice qui serait rétabli dans une égalité de souffrance. Hein. On a ce désir que celui qui nous a fait beaucoup de mal souffre aussi pour sentir à quel point ça fait du mal. Hein. Voilà, ça fait partie des choses qui se passent dans notre psychisme. Avant de réfléchir avec Bernard à ce qu'est le pardon chrétien, il est important aussi de réfléchir avec Jean Monbourquette aux fausses conceptions du pardon qui existe chez les chrétiens et que les psys d'ailleurs souvent qui connaissent pas Jean Monbourquette pensent aussi qu'est le pardon chrétien. Parce que si on ne prend pas conscience de ces fausses conceptions du pardon, on risque de s'engager vraiment dans une voie sans issue qui peut générer effectivement de la pathologie. J'ai déjà entendu des psy athées dire « Oui, mais les chrétiens, avec leur conception du pardon, ils provoquent des pathologies. » Alors, qu'est-ce que c'est que ces croyances erronées qui concernent le pardon ? La première, c'est dénoncé donc par Monbourquette, qui a une formation de psychologue et donc qui connaît bien ces mécanismes psychiques. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est pas tourner la page et recommencer comme s'il ne s'était rien passé. Au contraire, c'est un acte de souvenir et pas un acte d'oubli. Il s'agit de guérir la mémoire, d'arriver à penser l'offense sans se noyer dans les émotions négatives. Donc il y a une prise de conscience lucide par rapport aux limites de celui qui nous a agressés et par rapport à nos limites aussi. Il y a souvent un travail de désidéalisation de l'autre pour le voir comme il est dans la réalité. Et donc c'est certainement pas « j'oublie tout et on recommence à zéro, je te refais confiance comme si c'était rien passé ». Deuxième croyance erronée, pardonner c'est pas nier l'offense. Nier l'offense ou la minimiser, c'est nier la partie de soi blessée. Ça peut être un mécanisme de défense qui permet de conserver une idéalisation de l'agresseur lorsque c'est quelqu'un qu'on a besoin d'idéaliser. Troisième conception erronée, le travail du pardon sur le plan psychologique n'est pas seulement un travail de la volonté. Il ne suffit pas de le vouloir. On peut vouloir pardonner et rester prisonnier de ses émotions négatives. Alors, ce n'est pas parce qu'on a des émotions négatives qu'on n'a pas pardonné. Il ne faut pas confondre émotion et travail du pardon. Il faut prendre soin de la blessure qui provoque ces émotions. Émotions qui peuvent ressurgir si on vit des blessures qui ressemblent à une première blessure. Quatrième point, pardonner ne peut pas se commander ni à soi-même ni à quelqu'un d'autre. Alors ça c'est important dans l'éducation des enfants. On ne peut pas dire à un enfant « pardonne à ton frère ». On peut dire « excuse-toi », mais on ne peut pas dire « tu dois pardonner ». Bon, alors les chrétiens aussi, Bernard va en parler, se laissent parfois coincer dans ce « je dois » et toute la culpabilité qui peut venir. Cinquième point, pardonner ne veut pas dire se retrouver comme avant l'offense. On peut pardonner sans se réconcilier. Et se réconcilier ne veut jamais dire se retrouver la relation d'avant l'offense. Parfois, on pardonne et on se sépare, et c'est nécessaire. Parfois, justement dans l'inceste, pour pouvoir faire ce travail de pardon, il faut arrêter la relation. Il faut en tout cas que le mal s'arrête. Il n'y a pas de pardon possible et de travail du pardon si le mal ne s'arrête pas. Donc c'est très important. Parfois, une nouvelle relation peut être possible après une offense, même grave, et même meilleure qu'avant, mais jamais la même. Donc voilà, tout ça dépend évidemment de la gravité de l'offense. Alors, sixième point qui est très très important aussi, qui est aussi un piège, pardonner ne veut pas dire renoncer à ses droits, renoncer à la justice. Un pardon qui ne combat pas l'injustice peut être complètement dévastateur. L'actualité nous le rappelle. Pardonner à des abuseurs sans rendre justice aux victimes, c'est une violence en plus qui est faite aux victimes. Donc c'est un point très très important aussi. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre. Ce n'est pas déresponsabiliser l'offenseur. Parfois, il y a des victimes qui disent « Oui, mais enfin, c'est quand même un peu de ma faute, s'il m'a fait ça, etc. etc. » Ce n'est pas le bon chemin. Évidemment, ça peut aussi donner l'impression qu'on contrôle mieux la situation. Par contre, il y a un travail pour comprendre celui qui nous a fait du mal. Mais comprendre quelqu'un, ça ne veut pas dire excuser un acte. Donc, ça aussi, c'est très important. Pardonner n'est pas une démonstration de supériorité morale. Parfois, on peut se dire, bon, allez, c'est bien, je te pardonne, ou bien quelqu'un qui vous demande pardon, dire, bon, ben, c'est bon pour une fois, et puis, mais quand même, je suis contente que tu demandes pardon, mais tu te rends compte, c'était quand même très grave. Donc, profiter d'une demande de pardon pour humilier l'autre, voilà, c'est pas ça le chemin du pardon. Et par exemple, dans les relations parents-enfants, c'est très important quand un enfant ou un ado, encore plus évidemment, s'humilie en demandant pardon, de pouvoir aussi reconnaître si on s'est mis en colère ou si on a dit des choses qui ont dépassé ce qu'on devait, etc. Pardonner, ce n'est pas se décharger sur Dieu du travail de pardon. C'est un travail de Dieu et de l'homme ensemble. Je laisserai Bernard aussi. Donc, c'est pas simplement dire, voilà, ben, je demande à Dieu de te pardonner. Non, c'est... On a chacun son travail psychique à faire aussi. Voilà, ça, c'est ce que nous dit Monbourquette, mais j'ai envie d'ajouter deux choses. Beaucoup de personnes croient qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon. Ça, j'entends souvent, mais je ne saurais pas pardonner, il ne m'a pas demandé pardon. Alors, là, on se coince complètement parce qu'on se met en dépendance de celui qui nous a offensés. On attend, pour soigner notre blessure, que l'autre veuille bien reconnaître ses torts. Mais là, on se met vraiment dans une situation où on ne peut pas avancer tout seul. Donc, c'est important de sortir de cette dépendance à l'offenseur. Sinon, on paralyse un chemin de vie. Autre chose qui est un piège, c'est que, voilà, on entend parfois qu'on ne peut pas pardonner des choses très graves, comme un génocide, comme la pédophilie, etc. Alors, là, je crois qu'on se coince dans une autre idée. Je ne sais pas ce que Bernard en pensera, on n'a pas eu le temps d'en discuter. C'est quelque chose à quoi je viens de penser. Je dirais qu'on ne pardonne pas des actes. On pardonne à des personnes. On ne va pas pardonner un génocide, on ne va pas pardonner la pédophilie. On va pardonner à une personne qui a commis cet acte qui nous a blessés. Bon, voilà, je ne sais pas si tu auras des choses à dire par rapport à ça, mais je crois que c'est très important. Alors, ça pose des problèmes dans Notre Père, peut-être, mais...
Alors, pour continuer sur le pardon, mais de manière un peu plus spirituelle, peut-être, je continue avec ce même Monbourquette, qui, un peu en miroir des fausses conceptions du pardon, indique les 12 étapes du pardon authentique. Alors voilà, je vais énumérer ici de nouveau 12 étapes. Les 4 dernières sont plus spirituelles, dit-il lui-même. Alors vous allez reconnaître dans ces étapes aussi un peu le contraire de ce qu'on vient de dire avant, c'est évident. Alors c'est une série qu'il met dans un ordre bien précis. Par exemple, le premier point, c'est ne pas se venger. Ben évidemment, si on part dans la vengeance, on ne part pas dans le pardon. Mais aussi faire cesser les gestes offensants. Il faut donc que l'offense s'arrête, qu'elle ne continue pas. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui me bat tous les jours et qui continue à me battre. Ce n'est pas possible. Il faut au moins que ça s'arrête un moment pour que... Bon. Ça, c'est matériellement. Alors, il y a bien sûr une série. Alors, les étapes peuvent parfois s'intervertir. Ça dépend des personnes, ça dépend des circonstances. Il y a des choses qui sont très importantes pour les uns, qui sont moins importantes pour les autres. En tout cas, moi, personnellement, eh bien, j'ai rencontré une fois une personne qui avait été abusée et qui avait travaillé à partir de de ce livre de Montbourquette, et qui m'a dit, eh bien maintenant, je comprends ce qui me manquait pour avancer. Et dans les 12 étapes, il y en avait une qui bloquait. Alors elle ne m'a pas dit laquelle, mais j'ai pu constater en effet que c'était vraiment un travail de libération qui avait été fait à partir de ce livre et du travail sur ce livre. Donc le premier point, c'est ne pas se venger, c'est arrêter les gestes offensants. Le deuxième, c'est reconnaître sa blessure. Reconnaître sa blessure, parce qu'il y a des résistances à cette reconnaissance, des résistances cognitives. Ben, je me rends compte qu'au fond, c'est ridicule, quoi. Je ne vais quand même pas aller dire que c'est grave, quoi. Mais affectivement, c'est grave. Mais cognitivement, c'est pas grave. On ne va quand même pas faire un drame parce qu'on a dit ce mot-là une fois, quoi. Bon. Donc, on résiste soi-même à reconnaître la blessure, ou bien des résistances émotives, au sens qu'on a le sentiment de honte. On a été bafoué, dénudé, exposé, la fragilité a été mise à découvert, donc on n'a pas envie de dire à n'importe qui, etc. Reconnaître sa blessure et, peut-être troisième étape, la partager avec quelqu'un qui peut comprendre. Quatrième point, bien identifier la perte qu'on a faite du fait de ces blessures. La perte. Qu'est-ce que j'ai perdu en ayant été offensé de cette manière? J'ai perdu mon honneur, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu un ami. Qu'est-ce que j'ai perdu? Parce que parfois, on minimise ce qu'on a perdu ou au contraire, on grossit ce qu'on a perdu. Et donc, en parlant avec quelqu'un d'autre, on peut donner des proportions. Bien identifier ce qu'on a perdu pour pouvoir en faire le deuil, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai perdu? Et le deuil. Cinquième point, accepter les émotions de colère et de vengeance qui peuvent rester dans le cœur. Mais comme disait Dominique, les émotions, ce n'est pas le travail de l'intelligence et de l'esprit. Les émotions, c'est au niveau psychique. Je peux continuer à être ému, à vouloir me venger, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je sais que je ne le ferai pas, mais de temps en temps, ça revient. Sixième point, se pardonner à soi-même. Se pardonner quoi? Eh bien, se pardonner peut-être ce désir de vengeance qu'on a dans son cœur, ou bien se pardonner d'avoir été faible vis-à-vis de l'agresseur, par exemple. On dit au fond, j'aurais dû réagir, je n'ai pas été capable. Il y a des choses qu'on doit se pardonner. Et je crois que quand on se pardonne à soi-même, on se libère soi-même, comme dit Cochineau, on pardonne pour soi-même, pas pour l'autre. Dans une première étape, il faut se dire que pardonner va nous aider nous-mêmes dans notre vie, même si ça ne va pas encore aider l'autre ou refaire la relation. Alors, se pardonner à soi-même. Septième point, et on est toujours dans le psychologique, pas encore vraiment dans le spirituel, essayer de comprendre l'agresseur, l'offenseur. Comme disait Dominique aussi, essayer de comprendre, par exemple, ses propres parents, comment ont-ils été éduqués, eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu, eux, pour se mettre en colère comme cela, etc. Comprendre, mais comprendre n'est pas excuser, bien sûr, mais ça permet de donner des justes proportions. Alors, un point qui est peut-être le sommet de la démarche strictement psychologique, je dirais, et qui est un point délicat, trouver dans son sang, dans sa vie, un sens à l'offense. Finir par mettre cette offense dans le cours de sa vie et à dire, ça a servi à quelque chose. À quoi? Alors, il ne faut pas trop vite se presser de faire ça ou presser l'autre de faire ça, mais il y a des offenses qui nous apprennent des choses. Il y a des offenses qui nous font progresser. Par exemple, quelqu'un peut dire, eh ben, c'est à partir de cette offense-là que j'ai appris à dire non. Voilà, j'ai été là tellement choqué, tellement blessé, eh bien, à partir de cette offense-là, progressivement ou bien définitivement, j'ai appris à dire non. Maintenant, quand on veut me faire quelque chose que je ne veux pas, eh bien, je suis capable de dire non. J'ai appris quelque chose. Finalement, cette offense, c'est un mal, bien sûr, mais on a été capable d'en tirer un certain bien, de construction de soi. Alors, le neuvième point, c'est plus spirituel peut-être, se savoir digne de pardon et se savoir déjà pardonné. Le Christ nous a pardonné. on entre ici dans une démarche spirituelle, on sait hein, que le Christ nous a pardonné et nous rend dignes de faire comme lui. Le dixième point, c'est cesser de vouloir pardonner par soi-même, mais demander cela comme une grâce. Alors, je ne sais pas si vous avez l'expérience de, souvent du pardon, mais moi, en tout cas, mon expérience du pardon, c'est que eh bien, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et puis tout à coup, ça va. Un jour, ça va. Parfois, ça dure, hein. Mais je dirais, tout à coup, ça va, et je ne sais pas pourquoi. Et il y a quelque chose qui s'est fait, et puis tout à coup, je dis, ben, au fond, etc. Comme si, justement, eh bien, il y a un déclic qui se faisait, et moi, je peux l'attribuer à la grâce. Hein. Je demande à Dieu de me rendre capable de pardonner. Cesser de s'acharner à vouloir pardonner par soi-même. Hein, et dire, Seigneur, voilà où j'en suis, j'ai fait mon travail, mais bon, est-ce que ça va aboutir? Je n'en sais rien. Et ensuite, onzième étape, c'est vraiment s'ouvrir à la grâce pour d'abord pardonner dans son cœur. Hein, être capable de dire dans son cœur, je te pardonne sincèrement à cette personne. Parce que souvent, évidemment, l'offenseur est devant nos yeux, de l'imaginaire, et on veut lui faire ça, et on lui dira ça, et puis on a des tas de scénarios qui arrivent, qui sont bien violents d'habitude, en tout cas qui tournent en rond, hein, on le sait bien. Eh bien, demander cette grâce de pouvoir dire, au moins mentalement, au moins affectivement, je te pardonne sincèrement. Et préparer, parfois dans la prière, hein, eh bien, de préparer... Un jour, peut-être, on va rencontrer cette personne, ou bien, ou demain, on le sait bien, ou on ne le sait pas, mais se préparer soi-même avec le Christ à donner ce pardon. Et enfin, finalement, si on parvient à donner ce pardon aussi pour l'autre, pas seulement pour soi-même, mais pardonner pour l'autre, eh bien, décider ce qu'on va faire avec cette relation. Est-ce qu'on reprend cette relation, ou au contraire, on y met fin? Comme disait Dominique, la réconciliation, le pardon, ce n'est pas nécessairement de tout refaire comme on faisait avant. On peut décider que, voilà, eh bien, ici nos chemins se séparent, mais on laisse l'autre continuer son chemin. On ne le poursuit pas de sa vengeance, de son ressentiment, et on lui demande aussi eh bien, de nous laisser en paix et de pouvoir faire notre propre chemin. Voilà, et tout cela peut se couronner. Là, ce n'est plus mon Bourquette qui fait une étape supplémentaire, hein, mais il commente, et moi aussi, dans le sacrement de réconciliation. Il y a des personnes, parfois, qui font un grand travail psychologique, ou même une psychanalyse, et puis qui finalement se disent, j'en connais au moins deux cas, hein, eh bien je mets fin à ce travail par un sacrement de pardon. Et je vais me confesser, et je vais... demander à Dieu hein, qu'il clôture ce travail de manière spirituelle. Là, dans cette relation, il y a bien sûr Dieu comme tiers. Alors le prêtre est là comme représentant de ce tiers. Il n'y a pas que l'offenseur, l'offensé, il y a Dieu représenté par le prêtre. Mais le prêtre est là, et c'est tout un travail très délicat évidemment, il n'est pas là comme un robot. Il y avait une des questions qui parlait des sacrements, de l'automatisme des sacrements, du ritualisme des sacrements. Le prêtre n'est pas là pour faire un geste ex opere operato et puis magiquement tout se résout, non. L'ex opere operato a un sens, mais un sens bien précis, hein, qui n'est certainement pas celui d'un distributeur automatique. Hein. Donc quand on fait cette démarche, il faut la faire de manière... profonde, humaine, sincère, et on espère qu'on va aussi rencontrer un prêtre qui va accueillir de manière compréhensive, empathique, etc. Alors le prêtre sait bien qu'il a ses limites, il sait bien qu'il ne peut pas tout comprendre, tout faire, tout résoudre, etc. Mais évidemment, je dirais, s'il est froid, s'il a un air un peu de juge... ou de dégoût, s'il accueille mal le pénitent, ou s'il a l'air de dire « oh là là, celui-là, celle-là ». Bon, eh bien, il risque d'abîmer cette démarche qui parfois a coûté beaucoup d'efforts à la personne qui l'a fait. Ainsi, on rencontre parfois hein, des gens qui disent « plus jamais je me confesserai à cause du père untel qui m'a dit ça, ou je ne sais pas quoi hein, ». Bon. Ça arrive, hein. Mais alors ça arrive parfois qu'on l'entende dans une confession 10 ans après, alors donc finalement, 10 ans après, la personne a décidé quand même d'essayer de faire autre chose, mais ça a été un blocage pendant un certain temps. Ça peut arriver. Moi je dirais aux pénitents, n'idéalisez pas trop le prêtre, ni celui-là, ni un autre, et dites-vous, c'est pas... Il était de mauvaise humeur, ou bien il n'est pas très, très calé dans ce genre de démarche. Mais ce n'est pas lui toute l'Église, hein, il n'est pas Dieu le bon Dieu, il n'est pas toute l'Église non plus. Alors il peut arriver aussi qu'on va faire plusieurs fois ces étapes. Hein. Il peut arriver que les émotions reviennent et qu'on doive recommencer un petit peu, hein, un parcours. Mais je crois qu'à chaque fois le parcours s'approfondit et que... Le Seigneur nous guérit de plus en plus et nous donne de plus en plus de grâce dans le sens de lui ressembler dans son pardon.
Voilà pour le premier chapitre. Alors, il y avait une série de questions autour de la question des groupes, la différenciation des relations dans les groupes et la transmission dans les familles. Alors, on a vu qu'à leur naissance, les groupes humains ont en général un fonctionnement interne assez fusionnel, indifférencié, autour d'un leader, autour d'un mythe, la raison pour laquelle ils se créent. Et on a pris l'exemple de la naissance des communautés nouvelles à notre époque pour illustrer ça. Une famille aussi, à notre époque, commence souvent par une relation amoureuse fusionnelle dans un couple. Et durant cette première étape de la naissance d'une famille ou d'une communauté religieuse, ce qui se construit, c'est une différenciation par rapport à l'extérieur. Hein, donc ce sont des frontières assez rigides entre le groupe et l'extérieur, entre le couple qui a envie d'être sur une île déserte, qui a besoin de se différencier du monde extérieur. Mais à l'intérieur, c'est très fusionnel, très indifférencié. Lorsque l'identité justement sera construite et plus solide et que cette différenciation avec le monde extérieur sera bien établie, qu'il y aura cette reconnaissance aussi par l'extérieur de ce couple qui naît ou de ce groupe qui naît, normalement le processus de différenciation commence, sauf dans un groupe, une communauté nouvelle, par exemple si le responsable du groupe veut garder le pouvoir et ne permet pas cette différenciation. Donc là on est dans des problèmes d'abus, mais ce qui peut arriver et qui est peut-être moins évident à observer, c'est que le groupe aussi peut empêcher la différenciation alors que le responsable le veut. Hein? Par exemple, comment est-ce que dans un groupe, dans une communauté religieuse, on peut empêcher la différenciation? Par exemple, en faisant des alliances contre le supérieur. On a parlé de ça aussi. Une deuxième façon, c'est de n'en faire qu'à sa tête, de ne pas obéir au supérieur. Si je n'obéis pas au supérieur et que je transgresse ce qui m'est demandé, eh bien, je décide que c'est le groupe qui doit s'adapter à moi. Donc, je suis dans l'indifférenciation, en fait, puisque les autres doivent m'obéir. Voilà. Donc c'est une prise de pouvoir illégitime qui paralyse un processus de différenciation avec des lois qui font tiers et des fonctions différenciées, etc. Alors dans les familles, le moment le plus difficile de ce travail de différenciation, c'est le moment de l'adolescence. D'abord, la première chose à voir, c'est que c'est toujours un travail à faire par les adolescents, mais aussi par les parents. Les adolescents ne font pas le travail de l'adolescence tout seuls. Et c'est un travail qui est absolument indispensable pour qu'ils puissent construire une identité d'adulte. On a vu que c'était une difficile transformation des liens relationnels aussi. Et donc il y avait des questions aussi sur la transmission des valeurs et de la foi, qui semblent si faciles dans l'enfance et qui, à l'adolescence, est remise en question. Tout est bousculé et c'est normal puisque dans ce travail de l'adolescence, l'adolescent doit apprendre à résoudre le conflit mythique qui existe dans notre société entre la société et la religion, justement. Et Et donc, il ne peut pas simplement faire comme ses parents ont fait à l'époque où eux étaient adolescents, parce que cette société a évolué. Et donc, il doit trouver lui-même une façon différente de se construire et de trouver sa place dans cette société. Et voilà, les parents sont alors confrontés à un douloureux lâcher-prise, hein, qui n'est pas évident. Mais je dirais que la transmission, je pense, au travers de ce que je vois dans, par rapport aux familles que je vois en thérapie, mais aussi par rapport à ma propre famille, je pense que c'est plus le témoignage de leur propre vie, c'est par le témoignage de leur propre vie que les parents vont transmettre quelque chose plus que par des longs discours, et certainement pas par un rapport de force, ou, ce qui est encore plus fréquent que le rapport de force, un rapport de séduction. Hein? Donc voilà, il y a deux choses, deux pièges relationnels entre parents et adolescents à éviter. C'est cette confrontation symétrique, ce rapport de force, et des rapports de séduction, de manipulation, etc. Par contre, plus les parents seront cohérents avec leurs propres valeurs, plus les jeunes les respecteront, d'abord les valeurs de leurs parents, même s'ils ne sont pas d'accord avec ces valeurs, et s'en souviendront un jour ou s'interrogeront un jour par rapport à ça. Alors, donc l'exercice de l'autorité devra être cohérent avec ce témoignage et structurer une liberté que les jeunes ne peuvent pas encore assumer totalement. Hein. C'est, alors, les rapports de force, ce n'est pas de l'autorité. Hein, donc, il faut des lois. Et c'est très, très important de mettre des lois avec des adolescents parce qu'ils ne sont pas encore capables d'une liberté totale. On a vu dans le film « Ne m'abandonne pas hein, », comment on peut chercher une position qui protège. Bon, voilà, on a parlé aussi de situations extrêmes où cette façon de protéger peut parfois être violente. Mais voilà, comment les protéger le mieux possible d'expériences d'autodestruction qui sont quand même fréquentes à l'adolescence aussi. Alors, maintenant, quand on entre dans un groupe qui est déjà constitué, dans une famille, hein, quand on arrive à notre naissance dans une famille déjà constituée, ou quand on entre dans la vie religieuse, le premier niveau auquel on va être sensible et qu'on peut essayer d'analyser, d'observer, c'est celui de l'ambiance. Alors, je suis passée un peu vite sur ce concept-là, c'est Étienne de Soie qui l'a développé longuement, cette question du cycle de l'ambiance. Alors, Étienne de Soie était responsable de... Je vais vite faire le schéma pour que vous vous souveniez. Voilà, ce schéma-là. Le chaud et le froid. Et puis, donc Étienne de Soie était fondateur d'une institution thérapeutique pour enfants autistes. Et on sait que dans l'autisme, les questions d'ambiance sont extrêmement importantes. Mais les outils théoriques qu'il a développés sont intéressants pour analyser ce qui se passe dans nos familles et dans les groupes, dans les communautés religieuses aussi. Donc, il postule qu'en fait, dans un groupe normal, l'ambiance oscille toujours entre deux pôles. Le pôle de chaleur, qui est plus fusionnel, chaleureux, et le pôle froid, qui correspond à celui de la distance entre les personnes, de la solitude. Mais, voilà, dans un groupe, c'est nécessaire qu'il y ait cette circulation. On ne peut pas être tout le temps en contact les uns avec les autres en faisant la fête. En plus, si on est trop proche, la manière d'être proche peut aussi devenir très désagréable. Ça peut se passer dans des émotions négatives. C'est pas parce qu'on est proche que c'est forcément un côté chaleureux, agréable. Hein. Ça peut être électrique, explosif, etc. Et le côté froid n'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être une solitude bienfaisante, paisible, une distance entre les personnes qui fait du bien, etc. Mais voilà, il faut que ça respire. Hein. Et comment, si ça se coince d'un côté, il y a quelque chose qui se paralyse dans la vie du groupe. Et on va développer des pathologies. Alors c'est sûr qu'il y a des groupes qui se structurent avec une personnalité plus froide. Hein, les chartreux, j'imagine, ont une façon de vivre la vie communautaire plus du côté de la distance et de la solitude que les communautés nouvelles. Dans les familles, c'est pareil. Hein, donc il y a des familles où on n'est pas tout le temps ensemble, ou on ne mange même pas tout le temps ensemble, etc. Donc il y a des styles comme ça, mais c'est important de voir si les choses se sont figées ou s'il y a cette possibilité de respiration, de se retrouver, etc. Voilà. Alors, un dernier point sur la différenciation, c'était, il y avait des questions aussi sur la demande en thérapie. Est-ce qu'on ne peut aider que ceux qui demandent ? Là, il y avait quand même quelque chose que j'avais envie de rappeler, je crois qu'on l'a cité, mais rapidement, que Robert Neuburger, qui est un psychanalyste qui est devenu systémicien, nous propose comme cadre de réflexion. Si la demande, la souffrance et le symptôme sont chez la même personne, on peut prendre quelqu'un en thérapie individuelle. Si la demande, la souffrance et le symptôme sont répartis sur plusieurs personnes, dans une famille ou dans un groupe, on doit travailler en relation. Bon, donc ça veut dire qu'on ne va pas travailler que avec celui qui demande. Alors, j'avais pris un exemple, je crois, dans le cours d'une communauté religieuse, mais si une maman me téléphone pour me demander de voir son fils adolescent parce qu'il fait souffrir tout le monde dans la famille, je propose à la maman de venir avec son fils, éventuellement avec ceux qui souffrent, ou bien on le fera en deux étapes, etc. Mais si je demandais à la maman de demander à son fils, par exemple, de me téléphoner pour prendre rendez-vous, ben, il ne viendrait jamais. Hein. Si j'acceptais de voir le fils à la demande de la maman, c'est-à-dire en disant à la maman qu'elle se débrouille pour que son fils lui obéisse, il ne viendrait sans doute pas, ou bien alors s'il vient, il va me dire que c'est sa maman le problème. Hein, donc voilà. Hein, donc différencier les relations et construire de la justesse dans la relation, c'est aussi travailler avec les repères que Neuburger nous propose. Et là, ça donne accès à un travail relationnel où on peut aussi travailler avec ceux qui ne demandent rien, mais qui font partie d'une communauté familiale ou religieuse, et donc on peut dire, mais écoute, tu fais partie d'une famille, c'est pas toi qui demande, mais voilà, tu fais partie de cette famille, donc tu es responsable aussi des relations, arrange-toi pour que ta relation avec ta mère se passe bien et je t'embêterai pas, mais si ça se passe pas bien, ben écoute, tu es responsable de cette relation aussi, et donc je te demande de travailler avec elle et avec moi pour que ça aille, voilà, et en général c'est accepté.
Alors voilà, un petit mot sur la justesse des relations, en particulier dans les communautés, peut-être dans la prière aussi, qui est une relation. La prière est un type de relation, pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres, dans l'intercession par exemple, dans les prières communautaires. Alors pour commencer, je raconte un petit peu comment, jeune jésuite, j'avais été étonné que on me propose toute une série de référents. Alors j'avais quatre référents au moins. Hein, j'avais mon père spirituel, j'avais le supérieur local, j'avais un directeur d'études, j'avais le père provincial, et puis je dépendais ou je devais rendre compte à tout ce monde-là, hein, de ma vie. Et alors moi ou mes compagnons, parfois on se demandait, mais pourquoi faut-il aller chaque fois raconter toute sa vie à tout ce monde, hein, évidemment, comme on ne nous connaissait pas encore, bon, ben, c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait un peu raconter. Mais je crois que c'était pour nous apprendre à différencier les relations. Le père spirituel et le directeur d'études, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence. Hein. Ce n'est pas la même chose. Alors parfois, c'est plus délicat avec d'autres types de relations, avec le supérieur peut-être. Mais le père spirituel, c'est un domaine de ma vie. Le directeur d'études, c'est un autre. Alors peut-être que je vais parler de mes examens aux deux. Aux deux, je vais dire que je suis en examen et que, et bon, mais normalement, j'en parlerai différemment. Hein? J'en parlerai différemment. Avec l'un, en principe, je parlerai plus sur la matière, sur la manière de m'organiser pour réussir mes examens. Et avec l'autre, je dirais peut-être que je suis stressé ou que je n'aime pas du tout ce genre de choses ou que ça m'empêche de prier ou Dieu sait quoi. Mais voilà, je pense que c'était pour nous apprendre à différencier les relations. On ne raconte pas tout à tout le monde de la même manière. Même si on n'a rien à cacher, même si on veut vivre dans la transparence, on ne raconte pas tout à tout le monde. Hein. Et non plus de la même manière. Je crois qu'il faut apprendre à vivre la justesse des relations, la bonne distance, la bonne manière d'aborder les personnes. Et il y avait une question, par exemple, à propos de la restriction mentale. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un une chose en disant, ben tiens, en disant ça, je ne dis pas ceci qui appartient aussi à ce même domaine, hein? Eh bien, je crois que tout ça, c'est une question de discerner la justesse de la relation. Je ne vais pas dire tout à une personne, même si c'est un élément important de l'information que je lui donne, parce que cette personne n'y a pas droit, ou bien c'est pas le moment, ou bien Dieu sait quoi. Je crois qu'on peut donc être dans la vérité tout en ne disant pas tout à tout le monde. Je crois que c'est fort important. Mais il faut quand même qu'il y ait une cohérence d'ensemble. On ne joue pas donc un cache-cache, on ne va pas faire 5 compartiments dans sa vie, jouer des triples vies, des quadruples vies, ce n'est pas ça non plus que je prône. Hein. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que toutes ces relations soient justes en elles-mêmes et avec les autres. Hein. Ce que je raconte à mon père, ce n'est pas la même chose que ce que je raconte à ma mère, mais il faut que ce soit cohérent. Moi, je me souviens que, eh bien, il y a des choses que je racontais à l'un et pas à l'autre, mais j'acceptais tout à fait qu'il le raconte. Hein, qu'ils en parlent entre eux. Mais j'étais plus à l'aise avec mon père pour parler d'une chose, et ça m'était égal qu'il en parle avec ma mère, mais j'en parlais avec lui, pas avec ma mère, ou inversement. Voilà, donc c'est tout un réseau de relations justes qu'il faut essayer de tisser, je dirais. Hein. Et la prière, c'est la même chose. Je crois que la prière, c'est un réseau de relations avec Dieu, bien sûr, avec d'autres personnes dans l'Église, avec les saints... Peut-être qu'il y a aussi des relations plus problématiques avec un supérieur ou avec quelqu'un qui m'embête dans une communauté ou bien même avec des influences maléfiques, qu'est-ce que je sais. Je crois que là, de nouveau, il faut essayer de mesurer la bonne distance, hein, la bonne relation et ne pas se couper. Ne pas couper. Puisqu'on a parlé de possession, etc. On a évoqué dans le petit débat ensuite la question des prières de guérison, hein, dont je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai parlé du grand exorcisme, mais pas des prières de guérison. Alors les prières de guérison, je crois qu'il y en a sans doute un peu de toutes sortes, mais je prendrai deux formules que j'ai entendues à propos de ces prières de guérison. Il y en a où en fait, il faut couper les liens. Des liens qui sont mauvais, etc. Il faut couper les liens. Et j'entends d'autres qui disent... on va prier Marie qui dénoue les nœuds, qui défait les nœuds. Hein? Alors c'est un petit peu deux images, mais je trouve que ces deux images sont parlantes, au sens qu'il y a des liens qu'on ne peut pas couper. Hein? Il y a des liens qui sont peut-être très compliqués, qui sont très difficiles à gérer, mais on ne peut pas couper. On ne peut pas couper avec ses parents, on ne peut pas couper avec sa famille, on ne peut pas couper avec beaucoup de choses. Mais il faut garder une distance raisonnable, spirituellement adéquate. Alors je crois que dans certaines communautés, je passe un peu à un autre sujet, dans certaines communautés, c'est aussi une question de relation, une communauté peut penser quelque chose et moi je ne suis pas tellement d'accord avec cette manière de penser. Je suis dans un groupe qui croit fort au miracle ou bien qui croit fort à ceci ou à cela. Eh bien, j'entends des gens qui parlent de la mort imminente, etc. Moi, je ne sais pas s'il faut le croire ou pas le croire. Alors là aussi, il faut accepter que dans un groupe, il y ait des différenciations. Il y a toute une série de choses qui sont à peu près improuvables et indécidables. Hein, les miracles, la mort imminente, la sorcellerie ou je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on croit ou on ne croit pas. Eh bien, je crois qu'un groupe qui n'est pas malade, hein, un groupe qui se porte bien, c'est un groupe où on a le droit, hein, de penser personnellement, pas nécessairement comme tout le monde. Et si on a l'impression qu'on est le seul à penser comme cela, eh bien, je crois qu'on peut peut-être être un peu plus attentif à ce que disent les autres, et je suis sûr qu'on en rencontrera qui sont aussi, hein, peut-être plus à distance de telle ou telle croyance que les autres ont et que nous ne partageons pas. Donc les groupes où il y a une pensée unique, évidemment, hein, sont des groupes difficiles, ce sont des groupes un peu dangereux, un peu sectaires. Il faut essayer de vivre, de faire vivre des groupes où on a une certaine liberté de pensée et de parole sans s'agresser parce qu'on ne croit pas la même chose. Et si on discute de la mort imminente ou des expériences de mort imminente, ben, il n'y a pas besoin de s'empoigner là-dessus. Hein. Si on ne pense pas la même chose, on peut dire, ben voilà, ici, un tel pense ceci, un tel pense cela, et voilà. De toute façon, ce sont des choses, comme je vous disais, sur les miracles ou d'autres phénomènes très difficiles à décider. Je laisse Dominique passer au suivant.
Alors, il y avait quelques questions aussi sur la sexualité, les conflits mythiques par rapport à ça, l'homosexualité aussi. Alors, je pense que le conflit mythique entre l'Église et la société, il se situe notamment autour des lois à respecter en matière de sexualité. Et ces lois sont en contradiction apparente avec l'idéal proposé par la société, qui voit la sexualité comme un jeu agréable et sans danger. Enfin, ça fait partie des croyances qu'on entend. Et les lois de l'Église sont souvent présentées, en tout cas par les médias, comme des conditions de base pour appartenir à l'Église. Donc, les divorcés remariés, les jeunes qui vivent en couple et qui ne sont pas mariés, les personnes homosexuelles qui vivent en couple ou pas, ou qui pratiquent l'homosexualité, se sentent donc exclus de l'Église. Alors, pour cette raison, des associations se sont créées pour aider ces personnes, quand elles sont croyantes, dans leur chemin religieux et spirituel. Il y a Devenir un en Christ, il y a les chercheurs de Dieu en France. Il y a un livre qui est sorti, écrit par leur fondateur et qui regroupe une série de témoignages, homosexuels, transgenres, chercheurs de Dieu. Et c'est un groupe qui ne tient pas compte de la capacité ou non qu'ont les personnes qui en font partie de respecter la morale de l'Église. Mais la condition pour y entrer, c'est d'être dans une recherche d'une relation vraie avec le Christ, d'avoir un désir de prier, de connaître Jésus et d'avancer avec lui. Et donc il y a des retraites, des groupes de prière, des réflexions, des partages et un accompagnement dans ce cheminement. Voilà. Alors, le divorce est rarement un choix. L'homosexualité ne l'est jamais. Enfin, je ne pense pas en tout cas, sauf ceux qui veulent tout vivre par expérience dans une problématique de perversion alors. Donc, la découverte d'une homosexualité est souvent un traumatisme. Et donc, pour qu'un petit garçon et une petite fille deviennent un jour pleinement hommes et femmes capables de se désirer mutuellement, il faut un long chemin de relation à soi-même et de relation aux autres qui ne dépend pas que d'eux-mêmes. Hein, il y a tout un poids transgénérationnel, il y a tout un poids de la relation aux parents, de ce qu'on a reçu comme témoignage d'eux dans leur relation entre eux, les grands-parents, etc. Et donc, il y avait des questions par rapport à cette phrase que j'ai citée, « On ne naît pas homme ou femme », c'est une phrase de Simone de Beauvoir, hein, ça ne vient pas de moi, « On le devient », mais voilà, les psys mettent en évidence justement qu'on le devient plus ou moins facilement, homme ou femme, quand on est né petit garçon ou petite fille, suivant les relations qui nous ont construits et aussi le corps qu'on a reçu. Et qu'il n'y a rien d'évident à ça, hein, de construire sa propre identité, c'est quelque chose qui est un vrai travail et par rapport à quoi on n'est pas toujours libre. Dans un des séminaires, on avait travaillé cette question-là à partir du film « Les garçons et Guillaume à table ». Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est un film vraiment très intéressant sur cette question-là, la construction de l'identité sexuée. Alors par contre, ce que la psychologie, la psychanalyse nous enseigne, hein, avec Nicole Jamais, on l'a vu, c'est qu'une sexualité sans lien d'attachement qui engage nous clive. Hein. Si on se met à vivre les pulsions sans chercher à ce travail d'unification à une vie relationnelle, affective, cohérente avec nos valeurs, etc., on se clive, hein, c'est-à-dire il y a d'un côté notre affectivité, d'autre les pulsions. On se déconstruit et on casse nos capacités d'avoir confiance en l'autre. Et donc on construit des troubles d'attachement, on abîme nos possibilités de nous attacher les uns aux autres, et en plus on risque de provoquer des addictions sexuelles. Hein, donc les pulsions, si elles se vivent séparées de l'affectif et de relations affectives, ne s'apaisent pas et elles risquent de s'emballer. Hein, voilà.
Et donc un peu dans le même sens, il y avait des questions sur comment se situer par rapport aux orientations officielles de l'Église qui entre en conflit avec certainement le mythe culturel partagé par notre société, mais aussi parfois par notre propre manière de vivre, par notre propre expérience, par nos propres connaissances, etc. Alors comment faire ? Je crois que une première chose qu'on pourrait se dire, c'est que l'enseignement officiel de l'Église, bon, ce n'est pas un cadre qui est là suspendu au ciel et que tout le monde peut voir facilement et que tout ce qu'on vient de Rome a toute la même autorité, etc. Je crois qu'il faut un peu apprendre à écouter et à discerner ce qui est soi-disant considéré comme doctrine officielle de l'Église. Il y a beaucoup de gens qui me disent « l'Église dit ceci ». Non, l'Église ne dit pas du tout ça. Hein. Certains théologiens disent ça, oui. Hein. Ah oui, mais le pape l'a dit. Oui, mais il faut voir dans quel contexte, il faut voir pourquoi, avec quelle autorité, dans quel, etc. Je crois qu'il y a quand même un discernement à faire. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et je crois que dans l'Église, il y a diverses tendances parmi les moralistes. Et qu'il y a par exemple la question de la gradualité de la loi, qui est une grosse question morale. Hein. Alors, est-ce que la loi est une norme à vivre pour tous, telle qu'elle est là, et ce tous c'est absolument tous, ou bien est-ce que c'est un idéal vers lequel chacun est invité, ou est même obligé de tendre, d'accord, mais en tenant compte du point où il en est, hein? Je crois que ce sont des choses qui sont en discussion parmi les moralistes. Alors pour caricaturer, évidemment, comme le font parfois certaines personnes, on peut dire, oui, mais alors là, il y a donc il y a l'enseignement officiel de l'Église, et puis alors il y a les laxistes. Hein. Il y a les laxistes qui, eux, n'en veulent pas, et donc qui inventent n'importe quel discours, etc. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. La manière dont on accueille certains documents, comme Amoris Laetitia, par exemple, de notre pape François en 2016, montre bien qu'il y a des discussions dans l'Église et qu'il y a des discussions qui peuvent être quand même menées jusqu'à un certain point. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter ce que la société actuelle dit et croire que tout ça c'est bien. Il y a aussi beaucoup de voix de sirène dans notre société, hein. Actualiser la morale, ça ne veut pas dire faire ce que la société nous propose. Il y a aussi une vraie résistance à opposer à certains courants culturels, etc. Mais je crois que voilà, c'est tout un travail. Hein. Ce n'est jamais tout cuit, tout fait. Je crois que si vous suivez des cours ici, et si vous continuerez, j'espère, avec le Forum Saint-Michel à le faire, ici ou ailleurs, c'est justement pour affiner votre jugement, votre capacité d'intégrer cela personnellement dans votre vie. Hein. Non pas pour rejeter une chose ou pour foncer tête baissée dans une autre voie, mais c'est pour apprendre avec d'autres en communauté, hein, le tiers toujours, hein, et bien à affiner votre jugement sur toutes ces questions. Parce que je trouve qu'on présente beaucoup, et surtout les médias, hein, les positions officielles de l'Église comme étant les choses les plus épouvantables, les plus extrémistes, etc. Et bien sûr, ça c'est la position officielle de l'Église, c'est pas toujours vrai. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas trop idéaliser, l'Église ou les prêtres ou ceux qui enseignent, etc. Pas trop se laisser impressionner. Je crois que là aussi, hein, le travail de formation permet d'avoir un sens critique. Hein, de pouvoir relativiser certaines choses. Alors relativiser, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout et ça nous est égal, non. Et ça veut dire qu'on ne prend pas tout nécessairement au dramatique. Un peu d'histoire de l'Église, par exemple, nous enseignera que les grands scandales d'aujourd'hui ne sont pas les premiers, évidemment, hein, et qu'il y a eu beaucoup de choses pénibles qui ont été résolues dans l'Église, et qu'à côté de toutes ces choses pénibles, il y a aussi beaucoup de sainteté et beaucoup de courage, hein, de la part de ceux qui ont vécu de manière très contemporaine ces choses-là. Hein. Saint Ignace de Loyola, par exemple, eh bien, a fondé la compagnie à un moment très très compliqué de l'histoire, hein, très compliqué de l'histoire en général et de l'histoire de l'Église en particulier. Mais voilà, je crois que si on a ce discernement et ce courage, je crois qu'il ne faut pas trop vite se lamenter, hein, sur des positions qui vous seraient imposées, qui vous seraient de manière très extrinsèque. Il faut essayer de personnaliser, de subjectiviser tout cela. Et je prends le quatrième point, des questions plus théologiques. Une question était: où est la place de Dieu dans la sublimation réussie? Alors, nous avons vu en effet que la sublimation, c'est ce parcours avec quatre étapes. C'est un concept psychologique, la sublimation, ce n'est pas un concept théologique. Hein. Moi, je l'ai présenté avec, au bout du parcours, je dirais, ben voilà, la consécration de sa vie à Dieu. Mais d'abord, c'est Freud qui a parlé de la sublimation. Et beaucoup, comme je vous ai dit, beaucoup de psychologues ne croient pas que ça existe. Hein, ou que si ça existe, c'est impossible, pratiquement impossible. Et si c'est possible, c'est possible non pas parce qu'on a la foi, mais parce que, voilà, on a un psychisme équilibré, ou parce qu'on a la chance d'avoir réussi sa vie de cette manière-là. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants et qui sont capables de sublimation sans en faire appel directement à Dieu. Freud lui-même considérait que sa recherche scientifique était une sublimation. Mais il y a beaucoup de croyants, de psychologues croyants, qui précisément à cause, je dirais, de cette foi, eh bien, s'intéressent davantage, hein, au concept de sublimation. Et je crois qu'en effet, Dieu est présent dans ce cheminement qu'on peut décrire comme le chemin de la sublimation, et il est présent pas seulement au bout, hein, du chemin, comme étant celui qu'on a atteint, mais à chaque pas du processus. Dans l'idéalisation, il se présente comme quelqu'un qui attire, oui, mais dans le renoncement, ben, il se présente comme quelqu'un qui aide à faire le deuil des illusions de la vie. Dans ce travail que j'ai appelé le moment narcissique, il est dans la beauté de l'épanouissement personnel de la personne, dans la découverte de cette identité par différenciation. Et enfin, bien sûr, eh bien, lorsque ce n'est jamais un stade qu'on a atteint une fois pour toutes, hein, mais lorsqu'on est vraiment dans l'altruisme, dans le don de soi, par amour de Dieu et par amour du prochain, je crois que bien sûr Dieu est là, mais il n'est pas là que à ce moment-là, hein, il est là à tous les moments. Et je vous ai mis une petite citation de Bernhardt qui se trouve dans notre livre. Il y a toutes sortes de saints, hein, il y a les saints au psychisme disgracié et difficile, la troupe des angoissés, des agressifs et des charnels. Il y a les saints au psychisme heureux, les saints chastes, doux et forts, les saints modèles, canonisés, canonisables. Bon, ce ne sont que deux petits extraits, hein, de cette très belle page qu'il écrit, et je trouve où il montre que la sainteté, c'est pas avoir réussi une sublimation, hein. C'est autre chose que ça. Mais psychologiquement, ça peut nous aider, hein, à voir ce chemin. Alors, il y avait une question sur l'enfer, sur le purgatoire. L'enfer est-il vide? Est-ce que le Christ est le seul qui soit passé, hein, pour justement le vider? Alors, je crois qu'avec Balthazar, on peut éventuellement adhérer à cette vue théologique, mais ce n'est pas un dogme, hein, c'est pas un dogme du tout. D'ailleurs, son livre s'intitule « Espérer pour tous ». Espérer pour tous, ce n'est donc pas qu'il croit que l'enfer est vide, il espère que l'enfer est vide. D'autres se sont intéressés à ce sujet, comme Blondel. Et sur la question du purgatoire, c'est intéressant d'y réfléchir peut-être, est-ce que le purgatoire existe, d'y réfléchir à partir de la réincarnation. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui disent « Bon, moi je crois à la réincarnation, pourquoi? Parce que c'est impossible d'atteindre la perfection en une seule vie, donc il en faut plusieurs, donc on se réincarne, etc. » Je trouve que l'idée n'est pas mauvaise, hein, de se perfectionner, mais un peu le hic de cette réincarnation, c'est que, est-ce qu'on sait qu'on réincarne un précédent et on sait que le suivant, etc. Il y a la question de l'identité, hein, de l'identité de ces différentes réincarnations. Peut-être qu'il y a des explications plus poussées qui font droit à cette identité, mais c'est un peu, me semble-t-il, la question difficile. Tandis qu'avec le purgatoire, il y a justement, eh bien, l'idée qu'en effet, on n'atteint pas la perfection en une seule vie, hein, et que rencontrer le bien ou rencontrer Dieu, eh bien, ça demande un travail qui parfois doit se poursuivre au-delà de cette vie. Mais c'est la même personne dans notre foi, c'est la même personne qui est dans ce no man's land, dirais-je, hein, où il continue à se rendre compte de tout ce qui n'est pas parfait en lui et de combien, eh bien, il manquait à cet idéal du bien qu'il veut atteindre. Et ça fonctionne comme une purification, comme un progrès. Enfin, il y avait une question sur Marie. Est-ce qu'il faut croire, à propos des miracles, dit-on, doit-on croire à la virginité de Marie ? Alors, personnellement, d'abord, je ne mettrai pas ça au compte des miracles. Pour moi, la virginité de Marie n'est pas d'abord un miracle, c'est une conséquence de la conception qu'on a du Christ. C'est une question de christologie, dirais-je. Hein? C'est-à-dire que, quand même, je pense qu'un des dogmes fondamentaux de notre foi chrétienne, c'est que Jésus-Christ est Dieu et homme. Je crois que c'est un peu difficile de se dire chrétien en voulant sortir de cette affirmation. Si Jésus est Dieu et homme, alors on peut penser à Marie qui l'a mis au monde et se demander qui elle est, hein, et qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme, eh bien, mette au monde quelqu'un qui est Dieu. Et je crois que voilà, la question de la virginité de Marie est peut-être possible à penser dans ce contexte, non pas comme un miracle, hein, en se disant tiens voilà biologiquement ceci, bon ben là à mon avis c'est pas une piste qui va donner du fruit. La piste, c'est de se demander si on croit que Jésus est Dieu. Et à partir de là, ben, qui est sa mère ? Voilà, je crois que dans ce cas-là, on peut comprendre que Marie, évidemment, est une femme choisie entre toutes, comme dit le « Je vous salue Marie », pour remplir une mission tout à fait exceptionnelle.
Alors, on va terminer sur un petit point sur les croyances et les conflits de croyances à l'intérieur d'une même culture religieuse. Comment est-ce qu'on peut se situer face à des personnes à l'intérieur d'une religion qui croit des choses différentes de nous? Et vous voyez sur la feuille de route un petit schéma. Donc je vous avais donné l'exemple de quelque chose qui se passe dans la réalité, hein, d'un jeune homme de 18 ans qui est tué le dernier jour de la guerre alors que sa maman est en train de prier dans une église. Et après la mort de ce jeune homme, le papa et la maman vont réagir de façon tout à fait différente. Le père va construire comme croyance, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Si ma femme était en train de prier et que mon fils meurt, c'est que Dieu n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a un effondrement d'une croyance qui, j'imagine, avant était « si je prie, Dieu va me protéger », hein, d'une certaine image d'un Dieu protecteur qui, voilà, si je pense à lui, si je lui parle, il va rien m'arriver. Hein. Donc cette croyance-là s'effondre, mais il va en rester là. Hein, il va arrêter de prier, il va arrêter de pratiquer, il ne va pas transmettre sa foi forcément à ses enfants. Et dans l'histoire, ben, sa femme va continuer à... On ne sait pas comment ils ont parlé de ça ensemble, mais sa femme va continuer à croire. Hein, donc elle, c'est sûr que probablement sa relation à Dieu aura changé. Hein, ce qu'elle vit, c'est probablement quelque chose... voilà comment elle a fait, j'ai pas accès aux détails cliniques. Mais ce qui est important, c'est que voilà, nos croyances sont bousculées à certains moments par la réalité et qu'il faut tout un travail qui se fait avec un tiers dans la relation pour pouvoir comprendre que ben, tout le monde ne croit pas la même chose que nous. Hein. Donc là, la maman, elle a réussi à continuer à croire. Comment et avec quelles ressources, on ne sait pas. Donc on a besoin d'un tiers relationnel, mais on a aussi besoin d'un matériel symbolique. Alors vous vous souvenez de ce concept de matériel symbolique qui est toutes les ressources de pensée dans l'Église qu'on peut transmettre à nos enfants, qu'on a reçues nous-mêmes, etc. C'est comment quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose que moi a continué à croire et grâce à quoi, hein? Et là, bon, le témoignage d'autres personnes, etc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Edith Stein, mais Edith Stein a été tout à fait bouleversée, ça a joué un rôle dans sa conversion, lors de la mort de son ami Reinach, aussi à la guerre. Et elle a été bouleversée par le fait que la femme de son ami ne s'effondrait pas et qu'elle trouvait sa force, elle s'appuyait sur le Christ en croix pour continuer à croire. Hein? Donc, voilà. Et à peu près au même moment, elle avait vu dans une église une dame qui avait fait son marché et qui était à genoux devant le Christ en croix. Voilà. Donc, comment intégrer la souffrance et la mort dans sa foi? Comment s'appuyer et trouver sa force en quelqu'un qui est crucifié? Voilà, ça c'est un mystère qui a complètement bouleversé Edith Stein, hein, sur le plan psychologique, mais qui lui a permis de transformer ses croyances, de chercher, de faire tout un chemin de conversion. On va terminer là-dessus.